Il était une fois dans les environs de Zhanglong, un couple de paysans qui, sans être riches, vivaient dans l'aisance. Ils eurent la joie d'avoir une fille nommée Tam, brisure de riz. Mais leur bonheur, hélas, fut de courte durée. Tam venait d'avoir 3 ans quand sa mère mourut. Son père vécut quelque temps avec Tam. Il se plaignait souvent de n'avoir pas de fils pour perpétuer le culte des ancêtres. Aussi, 3 ans plus tard, prit-il une autre femme. Celle-ci était très bonne pour Tam. Le père se réjouissait de son choix. Il fut pourtant déçu quand, au lieu du fils attendu, elle mit au monde une fille que l'on appela Cam, son de riz. À quelque temps de là, il mourut. À son tour. La belle-mère changea du tout au tout. Elle se consacrait entièrement à sa fille et chargeait Tam des besognes les plus ingrates. Les enfants grandissaient, Tam devenait de plus en plus belle malgré les mauvais traitements. Cam restait laide malgré les soins prodigués. La jalousie accrut encore la méchanceté de la marâtre. Dans ce foyer où seul Tam travaillait, la gêne succédait à l'aisance. Un matin, la mère ordonna aux deux sœurs d'aller pêcher dans la rizière que l'inondation saisonnière, comme chaque année, avait peuplée de crabes, de crevettes et de petits poissons. Celle qui fera la meilleure pêche aura droit à un beau cache-sein rouge, promit-elle. Tam, courageusement, s'enfonça dans la boue grasse de la rizière. Quand vint midi, sa nasse était pleine. Cam, qui avait cueilli des fleurs et poursuivi les papillons sur les diguettes, n'avait dans son panier que quelques pauvres petits crabes. Mais, aussi envieuse que paresseuse, elle ne voulait pas que le beau cache-sein rouge lui échappât. « Ma sœur Tam, » dit-elle, « en pêchant, tu t'es éclaboussé. Notre mère va sûrement te gronder. Plonge-toi dans la mare. » Tam, sans méfiance, alla se baigner. Cam, prenant vivement le panier de sa sœur, en vida le contenu dans le sien et rentra à la maison où elle obtint le cache-sein rouge. Tam, assis sur une diguette de rizière, se mit à pleurer. Le Bouddha lui apparut. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» demanda-t-il. Quand elle lui eut raconté son histoire, il dit « Sèche tes larmes et regarde s'il n'y a pas dans ton panier un poisson ou une crevette. » Et Tam trouva un poisson bong, pas plus grand que le petit doigt, et qui frémissait encore. « Va le mettre dans le bassin en forme de demi-lune couvert de lotus rose à l'est de la pagode. Chaque jour, tu lui réserveras quelques grains de riz et tu diras « Bong ong, bang bang ». Monte manger mon riz d'or, mon riz d'argent. Refuse le riz moisi et la soupe froide d'autrui. » Et le Bouddha disparut. Le petit poisson ranimé disparut aussitôt sous les larges feuilles rondes. Tam, dès lors, ne se sentit plus seule. Elle avait quelqu'un à soigner et à aimer. Jamais elle n'oubliait de venir furtivement égrener sur l'eau le riz prélevé sur sa part. Mais Cam, toujours à l'affût, surprit un jour le secret de sa sœur et en informa sa mère. Le lendemain, à l'aube, la marâtre envoya Tam mener paître le buffle dans un champ très éloigné du village. Puis elle se rendit avec Cam au bassin de la pagode. Elles capturèrent le petit poisson, le firent griller et le mangèrent. À son retour, Tam courut rejoindre son amie. Elle l'appela, mais sous les feuilles rondes du lotus, rien ne frémit. Alors elle se pencha sur l'eau et vit un petit caillot de sang qui flottait. Elle comprit que le petit poisson Bong était mort et elle se mit à pleurer. Le Bouddha à nouveau se dressa devant elle et, apprenant la raison de ses larmes, dit « Ne pleure plus. Rentre chez toi et cherche près de la palissade de bambou. Tu y trouveras les restes de ton ami. Tu les recueilleras dans un vase de terre que tu boucheras avec soin et enterreras sous ton lit. Plus tard, tu en auras besoin. Tam fouillait vainement au pied de la clôture quand elle entendit la poule lui dire « Cotte, 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 donne-moi une poignée de paddy et je t'aiderai. » Et la poule l'aida. Et la poule trouva les arêtes du pauvre poisson. Et Tam suivit à la lettre les prescriptions du Bouddha. Un an passa. Cam ne faisait rien manger, bien et se parer pour la promenade. Tam s'occupait de tout, depuis le décortiquage du riz jusqu'aux travaux de ménage et à la préparation des repas. Pourtant, elle ne mangeait pas à sa faim, dormait peu et ses vêtements étaient en loques. La paix régnait alors. La récolte fut splendide. Une grande fête devait se dérouler dans la capitale et tout le monde s'y préparait. Cam se lavait, se parfumait, sortait ses plus beaux vêtements. La belle-mère ne tenait pas à montrer Tam en guenille, ayant peur du jugement des gens. Le jour venu, elle chargea Tam d'une tâche plus dure encore que les autres. Ayant mélangé un boisseau de riz et un de paddy, elle lui dit « Sépare-les et tu pourras venir à la fête. » Devant cette besogne impossible, Tam fut de nouveau en larmes. Et de nouveau, le Bouddha intervint. Tous les moineaux des environs vont t'aider. Mais s'ils mangent les grains, sois sans crainte, pas un grain ne manquera. Le Bouddha s'en alla. Le travail fut fait en un rien de temps. Je ne peux tout de même pas aller à la fête avec ses misérables haillons. Ne te désole pas ainsi, lui dit le Bouddha. Déterre le vase où sont enfermées les arêtes du poisson Bong, et tu verras. Tam déterra le vase et en tira les plus magnifiques atours qu'elle eût rêvés. Il y en avait de toutes couleurs. Vert tendre, rose de pêche, jaune canarie, rouge soleil couchant, violet d'arc-en-ciel, avec des bijoux assortis. Tam choisit un beau pantalon de soie noire, une robe de brocart bleu et une splendide paire de mules brodées d'ailes de phénix et serties de saphir qui allaient à son petit pied. « Comment aller à la fête ?» pensa-t-elle. Aussitôt, elle trouva dans le fond du pot un cheval minuscule qui, posée sur le sol, devint de grandeur nature. Elle eut bientôt un coursier équipé des plus riches harnais. Comme Tam et sa monture s'engageaient sur un point, les tambours résonnèrent et les héros crièrent l'arrivée du roi. Tout le monde s'écarta. Tam, dans sa précipitation, perdit une de ses mules qui tomba dans la rivière. Le cortège royal arriva, soudain l'éléphant blanc barrit très fort et refusa d'avancer. Il y avait sûrement sous le pont quelque chose d'anormal. Le roi donna l'ordre de fouiller le lit de la rivière. On trouva la mule, menue, brodée d'ailes de phénix et essertie de saphir. Celle qui a le pied assez fin pour enfiler cette sandale sera mon épouse, dit-il. Les héros proclamèrent la volonté du prince. Il n'y eut jeune fille dans le royaume qui n'essaya la mule. Cam fut parmi les nombreuses candidates, mais aucun pied ne convenait, et le sien pas plus que les autres. Mais quand Tam se présenta, son cambré s'adapta parfaitement à la précieuse mule. À ce moment-là, elle sortit l'autre, et les héros proclamèrent le succès. Cam et sa mère entrèrent dans une violente colère. Le roi, séduit par la beauté de Tam, tint avec joie sa promesse. La douceur, la générosité de la jeune femme attacha plus encore son royal époux. Des jours fastes s'ouvraient devant le couple. L'anniversaire de la mort de son père approchait. Tam sollicita du roi l'autorisation d'aller dans son village natal pour les cérémonies traditionnelles. Kam et sa mère cachèrent leur haine sous des mots de miel. Un matin, la marâtre dit à Tam, « Je te remercie pour les somptueuses offrandes que tu as déposées sur l'autel paternel. Mais ne penses-tu pas que la sincérité du cœur importe plus que la valeur des présents ? Si tu montais toi-même à l'arequier, comme autrefois, pour cueillir les noix de tes mains, sans doute notre père y trouverait-il plus de prix ?» Sans méfiance, Tam grimpa à l'arequier. Alors les méchantes femmes, avec leur coupe-coupe, attaquèrent le tronc. « Que se passe-t-il ? » demanda Tam. « Rien, des fourmis rouges montent à l'arbre. De crainte qu'elles ne te piquent, nous frappons sur le tronc pour qu'elles s'enfuient. » Et elles continuèrent d'entailler l'arequier. Et l'arbre tomba dans un craquement terrible sur la mare voisine. Et la pauvre Tam se noya. Alors la marâtre revêtit Kam des habits de sa sœur et la conduisit au palais. « La reine est tombée très malade au village, dit-elle au roi. Elle ne peut supporter la lumière et doit vivre dans une chambre obscure. » Le roi se laissa abuser. Mais l'âme de la douce Tam s'était réincarnée dans un loriot. Le bel oiseau jaune voletait dans les jardins du palais. Un jour, où des serviteurs avaient mis le manteau du roi à sécher sur une clôture de bambou, l'oiseau leur dit « Ne faites pas sécher ainsi le manteau de mon époux, les pointes de la clôture pourraient le déchirer. Étendez-le à plat sur un bambou. » Ces paroles furent rapportées au roi. Au jardin, le loriot sur une branche d'abricotier chantait à pleine gorge. Le roi dit un jour « Loriot jaune, si tu es l'âme de mon épouse, viens te glisser dans la manche de ma tunique. » Et le loriot s'y glissa. Le roi caressa l'oiseau, lui fit faire une belle cage d'or et d'écarlate et le nourrit lui-même de millet mûr et d'eau claire. Il passait près de lui tous ses instants de loisir, oubliant quelques instants ses soucis à écouter les trilles de son oiseau favori. La nouvelle de cette amitié vint aux oreilles de Kam, qui avertit sa mère, dont la haine ne désarmait pas. Profitant d'une absence du roi, elles tordirent le cou au loriot, le firent rôtir, le mangèrent, et enfouir les plumes dans un coin désert du jardin. Hors de ces plumes naquirent deux péchés. Le roi prit l'habitude d'y faire accrocher son hamac. Kam, toujours aussi vindicative, appela de nouveau sa mère à son secours, fait abattre ses arbres, et de leur bois tire un métier à tisser, lui répondit-elle. Toi seul, on aura l'usage. Profitant d'un jour de typhon, Kam fit abattre les pêchers en disant au roi qu'ils avaient été déracinés par la tempête. Mais voici que le métier, sorti des mains du meilleur artisan de la capitale, se mit à grincer dès qu'on s'en servait. Ce n'était pas un grincement normal, mais une sorte de voix humaine. « Tu prends le mari de ta sœur t'arrachera les yeux !» chuchotait la navette. Et Kam d'en appeler de nouveau à sa mère. « Démolis ce maudit métier, brûle-le pièce par pièce, jette-en les cendres loin du palais. » Ainsi fut fait, et Kam respira. Mais des cendres naquit un arbre tis, un plaqueux minier. Remarquez d'ailleurs que les coatis, fruits de cet arbre, de la grosseur d'une pomme et d'une peau jaune veloutée, sont souvent disposés sur les autels à cause de leur parfum suave et persistant. Ainsi des cendres naquit un arbre tis, un plaqueminier qui grandit plus que tous les autres arbres. Nombreux étaient ceux qui s'arrêtaient pour l'admirer. Une vieille femme conçut l'idée d'installer sous son ombrage un étal en bambou pour y vendre quelques gâteaux, du tabac et du thé. C'était une brave et honnête femme. Des passants prirent l'habitude de bavarder avec elle en fumant la pipe à eau. Un soir où elle repliait son étal, une odeur de fruits se fit si pénétrante que la vieille femme leva les yeux. Elle vit à la cime de l'arbre un unique fruit d'une grosseur et d'une beauté peu communes. « Vieille comme je suis, pensa-t-elle, je ne peux pas grimper à cet arbre. » Et elle fit ce vœu. « Ôti, laisse-toi choir dans mon sac. Je ne te mangerai pas, je te sentirai seulement. » Le fruit tomba dans sa corbeille. Elle l'emporta dans sa paillote et le plaça sur une petite table près de son lit pour mieux en respirer le parfum. Alors il se produisit un miracle. Chaque jour, elle rentrait du marché, elle trouvait son humble logis propre et rangé. Un plateau chargé des meilleurs mets l'attendait. La vieille femme, voulant éclaircir ce mystère, fit un matin semblant de s'en aller, mais revint sur ses pas. Elle s'approcha de la cloison de bambou et vit, à travers les interstices, une jeune fille d'une grande beauté s'activer au ménage. Elle entra, prit la jeune fille dans ses bras et lui demanda les raisons de son attitude. Tam, car c'était elle, lui raconta ses malheurs et ses réincarnations successives. Transformée en fée, elle avait été envoyée sur terre pour servir la vieille femme dont la vertueuse renommée était parvenue jusqu'au ciel. La vieille femme la supplia de garder sa forme actuelle. « Ainsi aurais-je une fille adoptive ?» Et Tam accepta. Pour éviter à la vieille femme un long trajet, Tam suggéra d'ouvrir une petite auberge à la porte du village. La beauté de Tam attira immédiatement les gens, qui ne tarissaient pas d'éloges sur sa grâce et son amabilité. Un soir, incognito, le roi, accompagné d'un seul serviteur, s'y arrêta pour prendre quelque repos. La vieille apporta le thé parfumé et, sur un plateau, des noix d'arec avec des feuilles roulées en forme d'ailes de phénix. Le roi fut bouleversé. Ces chics ressemblent étrangement à celles que préparait ma femme, dit-il d'une voix émue. Puis-je voir celle qui les a ainsi préparées ? La vieille femme appela sa fille adoptive et le roi reconnut Tam. Elle lui fit le récit de ses aventures. La joie du roi fut immense. Dès le lendemain, on conduisit en grande pompe la reine retrouvée au palais. Instruit des crimes de Cam et de sa mère, le roi confronta les deux sœurs. Cam, toujours dévorée de jalousie et de haine, sut pourtant trouver des paroles pour apaiser Tam. Cependant, Tam avait tant souffert qu'elle ne pouvait être dupe. Cam, d'ailleurs, ne tarda pas à renouveler ses intrigues. Ainsi, un jour où elle demandait à Tam le secret de sa fraîcheur, celle-ci, excédée, lui répondit. « Mon secret est simple. Fais creuser une fosse afin de t'y baigner et fais-toi verser sur le corps d'un seul jet une grande jarre d'eau bouillante. Ainsi, deviendras-tu blanche comme du lait. » Cam fit ce que lui conseillait Tam. Elle mourut avant que la jarre soit complètement vide. Ainsi finit la haine de ces deux femmes. Quant à la belle Tam, elle poursuivit sa vie toute de beauté et de vertu pour le bonheur du roi et de son peuple.